Salut à tous et bienvenue pour ce Furia Champion Podcast spécial deuxième salve de huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Après Atlético de Madrid qui a vaincu les Reds et Valencia qui a sombré contre l'Atalanta, c'est au tour du Barça et du Real Madrid d'entrer en piste. Ce mardi, les Blaugrana se déplacent au mythique San Paolo pour défier le Napoli de Gennaro Gattuso et mercredi, la Casablanca recevra le Manchester City d'un certain Pep Guardiola. Elle est à Naples pour assister au match et réaliser un reportage pour la revue des Cahiers du Foot, Ind. Buongiorno.
Buongiorno.
Il était avec nous la semaine dernière pour parler de Liverpool et comme cela a porté chance à l'Atlético, on s'est dit pourquoi ne reviendrait-il pas au Real Madrid, Manchester City. Hello, Geoffrey Frontline, how are you today?
Ça va, là je te fais pas un petit peu le soin de ne pas répondre en anglais évidemment puisque ça a porté malchance justement à Liverpool. Écoute, ça va. Ravi d'être de retour et prêt justement à évoquer ces deux rencontres plus en analyse et en détail parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire.
Alors il y a une crise institutionnelle au Barça, mais alors est-ce que c'est la même ampleur que celle du Napoli, Inde, parce que ça a été quand même un sacré foutoir lors des dernières semaines avec le mythique de Laurentiis.
Je sais pas si c'est la même ampleur, mais c'est vrai que ça a été un sacré bordel depuis le début de saison. D'autant plus que ça couvait, mais on s'y attendait pas trop, pas de cette ampleur. D'ailleurs, je crois que je porte vraiment pas chance à cette équipe parce que dès que je suis arrivée à Naples, la crise a éclaté. Donc, ça m'apprendra. Je ne sais pas, ça commence à se tasser petit à petit. Sur les dernières semaines, il y a eu surtout plus des déclarations de Gattuso par rapport à certains de ses joueurs, notamment des tauliers comme Alan, à qui il reproche de pas donner son maximum. Et il y a une remise en question du joueur ces derniers temps, peut-être à l'approche justement de matchs un peu plus prestigieux pour lui. Parce qu'il jouait un petit peu avec le frein ces derniers temps. On pense que c'est un peu la désillusion de ne pas avoir fait le transfert qu'il voulait au PSG. Mais sur ces derniers temps, en fait, ça commence à se tasser. L'équipe remonte petit à petit. Il y a eu 6 victoires en 7 matchs. Donc on est plutôt sur une tendance un peu plus positive. On entend moins parler de guéguerre ou de conflit entre la direction et les joueurs. Donc pour l'instant c'est stable.
Et le Napoli qui avant avait Carlo Ancelotti, maintenant sur le banc ils ont, alors attention je pèse mes mots, ils ont le plus grand milieu défensif de l'histoire de l'Italie, que je l'avais nommé, j'avais eu à voter pour le Ballon d'Or en 2006, pour moi il était numéro 1, Rino Gattuso. La légende, le seul, l'unique. Mais qu'est-ce qu'il est, mais à quel moment tu le signes, au Napoli? À quel moment? Je sais très bien parce que, en tant que suiveur de Valence, avoir vu Celades arriver, je me dis, après, Gary Neville, genre de truc là, ça, je sais très bien que les fils peuvent se toucher. Mais alors, Gattuso, après, t'as eu Sarri, t'as eu Ancelotti, tu mets Gattuso. Voilà, je l'aime beaucoup. Mais vrai, je l'adore Gattuso, mais alors, comme coach, bon.
Bah, je sais pas, c'est un peu notre comboiré, enfin,
c'est chaud de dire ça quand même.
C'est bon. Ouais.
Quel est son handicap au golf?
c'est un peu, pour moi, hein, c'est un peu le pompier de service en ce moment. Je ne sais pas, on verra, je pense que De Laurentiis, au fait, se fie beaucoup aux résultats de Champions League, beaucoup plus qu'au championnat. Donc, si jamais il y a qualif en quart, ce grand malade est capable de nous laisser encore pendant 2 ans, ce que je ne souhaite pas. Mais pour l'instant, il maintient l'équipe à flot. C'est déjà ça.
On va intégrer Geoffrey dans la discussion. Il y a eu un très grand huitième de finale il y a quelques années du Napoli contre Chelsea. Oui. Où Chelsea était passé par le soupirail, comme dirait Jean-Michel Larquet, après un festival Cavani et Lavezzi. Il me manque le troisième larron, dont je ne me rappelle plus le nom.
C'était Amsi, Cavani,
oui, Amsi, oui, bien sûr. On a toujours l'impression que Napoli, ils arrivent à parfois bien jouer, voire très bien jouer, et puis claquage du mental quand ça devient un peu match à élimination directe en Coupe d'Europe.
C'est le PSG.
Non, non, en plus, non. Je me rappelle très bien de ce match-là, et c'est marrant parce que justement, il y avait Cavani dans cette équipe-là, et ils avaient perdu, mais d'une façon complètement, ils avaient perdu en prolongation de mémoire. Ils auraient
oui,
jamais,
ça, ouais, ouais, ouais.
Ils n'auraient jamais dû perdre. Enfin, c'est improbable d'avoir perdu ce match-là, quoi.
Oui, ça arrive assez souvent. Je pense que, bon, c'est pas que du mental, parce que si on y pense, sur les secteurs offensifs, on n'a pas eu trop à se plaindre sur les dernières années, mais il faut que le reste de l'équipe suive. Et moi, je crois sincèrement qu'une équipe est aussi forte que son maillon le plus faible, et parfois, au fait, devant des enjeux comme ça, il y a une part de mental, mais il y a aussi une part de déséquilibre au niveau d'une équipe. Et dernièrement, en fait, sur les dernières saisons, et cette saison fait pas défaut, il y a moins d'inquiétude sur des grosses confrontations qu'il n'y en a sur des confrontations, on va dire, un peu moins importantes. Tu gagnes contre cette saison, là, rien que sur les dernières semaines, tu gagnes contre la Juve, ce qui était déjà difficile quand t'avais une équipe qui fonctionnait du feu de Dieu avec Sarri, etc. Tu perds contre Lecce, tu gagnes contre l'Inter. Et aujourd'hui, quand je parlais un petit peu aux supporters pour savoir comment ils ressentaient le match de demain, tu sens vraiment cette ambivalence, c'est que cette équipe, tu sais jamais ce qu'elle peut te sortir.
Ouais, c'est un peu les montagnes russes qu'on pourrait schématiser, en fait. Parce que est-ce qu'il y a un effet Sarri inversé contre la Juve? Est-ce que en face les mecs se sont dit là l'ancien mystère il faut le déglinguer, quoi, en gros?
Franchement, je peut-être chez certains joueurs tu peux retrouver cette mentalité là, notamment Insigne, mais je pense surtout qu'il y a un truc, oui, sur des rencontres avec plus d'enjeux, il y a un truc qui galvanise l'équipe. Je sais pas si je pense vraiment pas que les joueurs en voulaient à Sarri ou qu'ils voulaient prouver quelque chose à Sarri. De toute façon, un match contre la Juve, que ce soit ton ex qui est chez l'ennemi ou pas, c'est toujours un match où tout le monde se mobilise. C'est très important, c'est comme un classico en Liga. C'est même sur les dernières années avec Sarri, on a pu voir une équipe qui montrait beaucoup plus de choses positives quand c'était face à la Juve, et qui se relâche dès qu'il s'agit d'un match contre une équipe de bas tableau.
Oui, et puis en plus, hein, c'est au-delà de sociologiquement, économiquement, c'est deux Italies qui s'affrontent, quoi, parce que à Turin c'est les ouvriers de la Fiat, c'est une ville austère,
c'est vraiment pas un cliché, au fait, c'est ça a une véritable réalité.
Naples, c'est les Terlone, hein, c'est
exactement,
c'est un Terlone, c'est comment on pourrait dire, c'est des bouseux, en fait, en Italie. C'est au-delà de, c'est pas un mot, en fait, c'est une insulte, Terlone. Quand tu dis Terlone,
c'est péjoratif. C'est vraiment péjoratif.
Moi, je suis d'origine toscane, en fait, et c'est des trucs pour énerver un petit peu les gens qui étaient de Calabre et tout ça. Tu dis Terlone et tu peux prendre cher, hein. Attention, faut vraiment que ce soit des gens qui comprennent ton milieu, parce que c'est.
Ouais, mais moi, je t'aurais foutu une claque, mais.
Je suis très très vif. mais non, mais c'est vrai que c'est
le problème cette saison, en fait, vraiment, c'est que le problème de cette équipe, c'est qu'on n'a pas assuré, au fait, la transition, parce que on est arrivé au bout d'un cycle et on a l'impression que tout le monde a été pris par surprise, alors que ça fait un moment, en fait, qu'il fallait déjà préparer la transition. Il y a des tauliers, au fait, qui ont complètement lâché. Vers la fin de la saison dernière et début de cette saison, il y a eu aussi le groupe qui a lâché Ancelotti, mais je crois que personne n'a préparé la suite, et ce qui explique qu'aujourd'hui des mecs comme Alan ou Koulibaly, bah, ils sont dans le dur. Quand il y a eu la crise il y a quelques mois en novembre avec la grève, il y avait quasiment que des cadres, au fait, qui sont là depuis plusieurs années, impliqués.
Ouais, et ça s'est vraiment senti en plus avec Koulibaly, où au plus fort de la grève, même quand ça a commencé, ouais, il enchaînait les prestations, on va dire, sans relief, c'est assez insipide, et plus après, bah, vraiment des erreurs défensives, quand je repense par exemple au match contre Parme au San Paolo, où il fait une énorme bissade, et puis ça permet le but de Kulusevski, il me semble, au bout de une ou deux minutes.
Ouais.
C'était typiquement le symptôme, on va dire, Koulibaly, et même les cadres, on va dire, le plongeon des cadres plus fort de la crise.
Mais là, en plus, la difficulté de Kalidou, c'est aussi, on lui a mis dans les pattes, entre parenthèses, Manolas, alors que ça faisait des années qu'il avait développé une alchimie et des automatismes avec Albiol. Donc, c'est déjà pas simple. Et on voit au fait qu'aujourd'hui, bah, la doublette Manolas-Maximovic fonctionne beaucoup mieux. Et oui. Donc ça, c'est sa difficulté à lui. Alan, j'en avais parlé tout à l'heure, c'est plus une question de bonne volonté et de se remettre la tête à l'endroit. Ok, t'as pas fait le transfert que tu voulais, mais il a un peu perdu sa place aussi. On a Dembélé, donc si a priori il partirait pas forcément, Alan, il partirait pas titulaire demain.
Là, on est entre nous. Ouais. Donc on a toutes des contractions. Vous voulez pas nous le rendre, Fabian Ruiz, s'il vous plaît?
Non, non, on le garde, on l'a, c'est à nous.
Ah, parce que
c'est un joueur absolument.
Quel joueur extraordinaire.
Mais
justement, Fabian Ruiz va retrouver quelqu'un qui l'a remis, qui lui a permis de déclore, hein, Quique Setién.
Ouais, c'est vrai.
Parce que si vous avez 10 minutes à perdre, vous allez regarder le derby de Séville, le Grand Derby, où le Betis gagne 5-3 à Sanchez-Pizjuan, il met un but à la première minute, et tout le match est une masterclass. C'est incroyable. C'est peut-être son meilleur match en Liga. Et, il est parti parce que la clause était pas très élevée. 30 millions, c'est, autant pour Braithwaite à 18, tu dis, c'est surpayé. Autant tu dis 30 millions pour Fabian Ruiz. C'est cadeau parce que.
Attends, je vais dire un truc. Vous nous donnez Setién, on vous le rend. Hein.
là, c'est à dire que là, il a encore quelques mois. Attention, parce que justement, la Ligue des Champions, ça va être un peu le juge de paix pour Setién. On va voir ce qui se passe au Classico aussi, parce que là, maintenant, le Barça est passé leader. Mais mais finalement la greffe a l'air de pas mal prendre avec Setién, ce qui est un peu, je pense, c'est un petit miracle, parce que avec Valverde ça ronronnait énormément, et là Setién c'est vraiment la grosse débauche d'énergie, et c'est deux salles, deux ambiances, hein. Puis là c'est vraiment
je lui souhaite vraiment du succès. Je sais que le contexte du Barça peut être vraiment compliqué, et qu'il y en a qui se brûlent dans ce club-là, mais vraiment lui, par contre, ça fait des années, je suis amoureuse de son football. J'aurais adoré l'avoir à Naples.
Ah ouais, c'est le tremplin là, peut-être aussi, peut-être qu'il fait 6 mois et peut-être qu'il change. Je sais pas. Ben déjà, il va y avoir le changement de direction. On va voir comment ça va se passer. Mais oui, en fait, je voulais ajouter quelque chose.
Ouais, ça a commencé. En plus, vraiment, moi, j'ai commencé à le connaître quand il était à Las Palmas. Il a fait déjà un boulot absolument exceptionnel, et c'est vrai que depuis quand il est arrivé au Betis, mais c'était une masterclass, tu vois. J'étais évidemment, malheureusement pour le Betis, ils avaient perdu et été éliminés, mais j'avais été au Benito Villamarine quand ils ont été éliminés par le Stade Rennais, mais franchement j'ai été aussi un petit peu aussi subjugué par ce jeu, vraiment tout en possession et en assistant vraiment son adversaire dans sa propre milieu de terrain. Il me semble même que l'année dernière, en possession pure du ballon, à un moment, je crois qu'il y avait un match, il avait explosé le record du Barça qu'il était depuis. Je savais plus la date, mais c'était à environ à 85% de possession. Alors évidemment, avoir la possession, ça arrive parfois à pas grand-chose, mais tu te dis vraiment tous ces préceptes-là. Bah évidemment, le Barça veut de nouveau les avoir, et sous Ernesto Valverde. C'était complètement perdu sur Ernesto Valverde. Pour moi, c'était un ensemble d'individualités, mais il n'y avait rien qui se dégageait. C'était assez affreux à voir. Et puis là, finalement, moi, j'ai pas trouvé ça vraiment surprenant, ce choix, sachant vraiment le ce que cet entraîneur peut amener. Donc, à voir. Alors évidemment, c'est pas clinquant, mais pour moi, le quinconce ne veut plus rien dire. Bon, évidemment, si tu ravais une voir de là, évidemment, c'est ça. Mais Sétienne peut vraiment convenir vraiment à cette philosophie du Barça. Et ça va beaucoup mieux quand même depuis quelques semaines.
Mais sachez qu'au Betis, il fait autant de nostalgie que de gens qui voulaient le dégager. Hein. Bon, alors, j'espère qu'ils sont...
Il y avait des gens qui voulaient le dégager.
Ouais, c'est moitié-moitié. Très, très clivant, Quique et Sétienne. Ah ben là, ils sont contents, ils ont Ruby, donc ça va. Mais ça joue à tout, sauf au foot. Enfin, bref. J'exagère un peu, mais c'est pour moi, c'est, tu peux pas passer de Sétienne en Ruby, c'est pas possible, quoi.
Je sais pas comment tu peux aimer le foot et ne pas l'aimer, en fait. Je sais pas.
Ouais, mais le Betis, c'est toujours entre deux crises, hein, le Betis, hein. Donc, c'était mais il est clivant parce qu'il y a des fois ils ont pris des bonnes raclées aussi le Betis, donc des fois c'est ouais. Il y a des matchs où ils étaient complètement perdus, même le premier match la saison dernière où ils sont très attendus au Villamarine, ils prennent 3-0 contre Levante. Donc d'ailleurs, si vous êtes intéressé par Levante et le Furia Liga podcast traite de Paco Lopez, entraîneur de Levante, parce qu'on a enregistré avec Ben juste avant le Furia Champions. Donc faites les deux, si comme ça vous fera une bonne journée de foot espagnole. Vous allez rêver de Don Quichotte après. Pour revenir à Fabián Ruiz, à Naples, il y a une bonne colonie espagnole qui est bien plus importante que par exemple les Italiens. Alors les Italiens, il y a eu une colonie à Valence, quelques-uns. Je crois que je me demande le dernier Italien au Barça serait pas Albertini. Je me demande.
Il y a eu Gianluca Zambrotta aussi.
Oui, Gianluca Zambrotta.
Ah, oui, Zambrotta.
Ouais. Zambrotta, qui a un peu plus marqué.
C'est à l'époque de Lilian Thuram, ça.
Mais ouais. Qui a un peu plus marqué le club que Demetrio Albertini.
Quand même.
Ouais. Ah, ça remonte pas à la finale contre Arsenal en Champions.
Si, il me semble, c'était à l'époque des Belletti, etc.
C'est exactement.
Là, ouais, 2005, 2006, 2007. Ouais.
Exactement. Mais alors à Naples, il y a encore beaucoup, mais il y a eu Pepe Reina. Il y a eu Raúl Albiol, là, il y a Fabián Ruiz, il y a eu Callejón.
Bah, je peux vous dire qu'Albiol, il me manque. C'est pas que je me plains de
Alors, celle-là, on va la mettre en exergue.
Non, il me manque dans le sens où il y avait quelque chose de bien, en fait, de très fluide entre lui et Koulibaly, et qui fonctionnait bien. Alors aujourd'hui, les choses ont changé, mais au fait, je parle avec mon prisme de fan numéro un de Kalidou. Donc ça me fait mal au cœur qu'il soit aussi en galère sur le terrain. Mais Albiol, c'était un joueur de devoir qui se trouvait pas. Il avait ses limites. C'était pas le défenseur du siècle, mais ça fonctionnait.
C'est vrai. C'est dommage qu'ils soient vraiment en difficulté parce que c'est, enfin, en tout cas cette saison, mais c'est aussi, ça va aussi avec un petit peu la dynamique du Napoli que le Napoli a eu cette saison, mais c'est quand même un excellent défenseur et puis enfin, moi j'adore, vraiment robuste, qui tient sur ses pattes, et surtout moi ce que j'adore c'est quand il prend le ballon et qu'il commence un petit peu à avancer, à dériver 2-3 joueurs offensivement. Ça j'adore quand il fait ça, mais ça m'a vraiment fait de la peine de le voir. Bon, évidemment, on l'a dit, il n'y a pas eu que lui, il y a eu d'autres cadres, et de le voir vraiment à la peine en octobre, novembre, décembre.
Ouais. Bah, d'autres joueurs ont sorti un petit peu la tête de l'eau, mais lui. Les joueurs qui seront pas là, donc Urante n'est pas convoqué. C'est de la grippe. Donc c'est pas le virus, c'est la grippe. Oulam, aucune idée au fait, on sait pas pourquoi. Ça peut être un choix assumé de l'entraîneur ou une baisse. Enfin, peut-être que Kalidou, au fait, apparemment, il est pas vraiment remis de sa blessure, il est pas au top de sa forme, donc il a pas été retenu dans le groupe.
C'est l'instant où il faut se mouiller. Pronostic pour demain.
Ouh là là.
Sachant, je te rassure que Boris Faith ne joue pas. Il n'est pas qualifié pour la Champions.
Écoute, je suis pas très bonne en pronostic. On a déposé des cierges et on a prié San Gennaro. si on fait un match nul, ouais, bah, je dirais match nul.
Je t'avais promis pour te convaincre de venir. Parce que tu te méfiais de moi, qu'on parlerait du seul et de l'unique.
Maradona.
Diego Maradona. Évidemment. En plus, là, t'es à Naples. Alors, si tu peux, j'imagine qu'il y a, il y a toujours toutes ces effigies, dans les rues.
C'est un peu
le point cliché, c'est de reportage de foot. Tu sais, pour, quand t'arrives à Naples, pour toi qui font, tu sais, t'as une vue qui descend comme ça sur un mur, Maradona est partout, tu vois. J'ai fait pareil, c'est le petit lancement.
On parle de San Gennaro, mais c'est le saint patron de la ville, c'est Maradona. Mais bon, après, moi, le reportage que je fais, au fait, justement, j'ai pris le parti de faire quoi, tout sauf Maradona, parce qu'on en a tellement parlé. Mais effectivement, de toute façon, demain, si on prend une branlée, on sera toujours le club qui a pris Maradona.
Au Barça.
Et puis là, voilà.
Exactement. Mais en plus, Maradona, le, on pourrait dire les origines du départ de Maradona à Naples. Alors de mémoire, j'ai fait une vidéo au tout début de Furia Liga sur sa blessure contre l'Athletic Club Bilbao avec le coach.
Ah oui, bah lui.
Ouais, le tacle. Ouais, alors ouais. Ça, si vous écoutez, vous avez 15-20 ans, j'espère qu'il y a des gens aussi jeunes qui nous écoutent. Nous, on est déjà, personnellement, je suis déjà un peu plus vieux, mais pas si vieux pour avoir vécu cette époque-là de la Liga des années 80. Et si vous regardez les années 80, années 90, vous allez regarder les pelouses, vous allez voir comment ça taclait. Les Barça athlétiques sont des matchs dantesques. Il y a eu des bastons. Maradona, il y a eu une baston générale dans un match avec Maradona. Je crois que ça semble ma messe, pas comme dans, mais ça semble ma messe. Et il y a cette blessure là. Et en fait, c'est à partir de cette blessure là où il se casse la jambe qu'il perd complètement le moral et qu'il commence à se droguer en fait. Et oui, en fait, ça. Par les ramifications de la cocaïne qu'il prenait, il s'est retrouvé à Naples. Donc
il y avait des matchs où il sortait avec les chaussettes complètement déchirées, du sang partout. Ouais. C'est alors je suis pas du tout nostalgique, j'ai pas connu cette époque-là, mais comme toi, enfin je suis remontée un peu plus loin. Je dis pas que les joueurs aujourd'hui sont fragiles. Je trouve toujours qu'on protège pas assez les joueurs. Mais par contre, à l'époque, c'était du n'importe quoi. Et effectivement, dans son histoire personnelle et dans sa carrière, qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a souffert? Effectivement, c'est aussi pour ça que il a voulu partir. Et il n'en pouvait plus. Il faisait des matchs, il continuait jusqu'au bout, mais à peine. Il était découpé.
Ouais. Et puis non, mais cette blessure-là, ça lui a créé un mauvais entourage aussi. Mais bon, après, il faut qu'on se mette d'accord. Il faut qu'on se mette d'accord sur quelque chose. En 94, si Joao Avelange décide pas de le suspendre, parce que bon, il était à l'éphédrine, donc bon, à mon avis, son urine devait ressembler plus à du jus d'orange, quelque chose de naturel, mais il le sort pour une seule raison, c'est que quand il voit le but contre la Grèce, l'Argentine même, il y a pas Redondo, parce que Redondo refuse de se couper les cheveux avec Passarella. Si jamais cette équipe-là continue, elle gagne le mondial. C'est peut-être l'équipe l'Argentine la plus forte qui ait jamais eu de toute l'histoire. C'est une équipe qui est monstrueuse. Et quand entre ça et l'Italie de Baggio, j'étais un grand fan de Romario, mais quand même, l'Argentine de Maradona.
De toute façon, aujourd'hui, tu demandes à n'importe quel Napolitain, grand, petit, vieux, sa mémoire ne partira jamais de cette ville. Elle est, comme tu as dit, dans les quartiers espagnols, au fait, cet été, j'avais fait du reportage pour un magazine pour faire les photos. C'est incroyable. Il est partout, mais tu vas même au centre historique, c'est des stickers. Il y a un café où il y a une mèche de ses cheveux qui est préservée comme une relique. C'est une folie au fait, et cette folie, je pense qu'elle partira jamais de génération à génération. C'est vrai qu'on aujourd'hui, de toute façon, on parle du Napoli au jour le jour, mais là j'ai un article de la Gazzetta devant moi, et ils peuvent pas s'en empêcher, ils ont parlé de Maradona. en parlant du match de demain, tu vois, donc j'ai souri. Il est jamais bien loin.
Mais ça,
c'est quelque chose de très touchant en fait.
C'est incroyable. Enfin, je veux dire, il y a toujours une occasion en tout cas pour parler de lui, et Et pareil, oui. J'avais un ami aussi journaliste, donc qui était parti faire un reportage à Naples et qui avait pu rentrer dans le musée Maradona, fait évidemment pas par comme les musées qu'on peut avoir évidemment.
Oui.
Par vraiment un supporter, évidemment un ultra fan du Napoli. Oui. Et t'avais plein de reliques évidemment du Napoli, mais aussi de Maradona là-bas. Mais ça allait la perte d'une dent, un t-shirt taché de sang. Mais
ah bah tu sais, au fait, ce musée-là, donc au fait, cet été, France Foot était parti faire une interview du fils de Maradona, et il voulait le ramener en ville dans les quartiers espagnols pour faire le shooting photo. Et donc finalement, il avait préféré rester chez lui dans sa campagne. Et d'ailleurs, si vous l'avez pas lu, c'est une interview assez géniale parce que c'est encore une autre facette de la vie de Maradona à Naples. Et justement, en fait, ils avaient récupéré des affaires dans ce musée-là. En fait, il y a des photos avec des éléments en fait qui viennent du musée.
Ouais, c'est ça. Et puis c'était au moment justement de la sortie du film du centre de Maradona.
Oui, oui. C'était à la même époque, ouais.
Évidemment, le fils que évidemment Maradona n'avait pas voulu reconnaître, et là.
Exact.
C'est Diego Junior, celui qui est international de beach soccer.
Oui. Diego Junior, et c'est incroyable comment même si son père ne l'a pas reconnu.
Oui, le test ADN est superflu. Hein. Ah oui.
Même si l'a pas reconnu, il l'idolâtre. Oui, mais comme n'importe quel Napolitain, il l'idolâtre complètement. C'est quand même un père qui l'a abandonné la plupart de sa vie, il a renoué avec lui que sur les dernières années, et pourtant pour lui c'est Dieu incarné, quoi.
Ouais. Et puis c'était même froid, il me semble, je crois qu'il disait ça, c'était froid au tout début, fallait y aller petit à petit, ouais, je crois.
Mais il était son fils, il est même allé en Argentine, il a appris l'espagnol, etc. Tout ça pour se rapprocher de ce père idole, quoi. C'est dingue, c'est une belle histoire, c'est une histoire qui est hors du commun, quoi.
Et qui fait partie de la légende Diego, on va dire, de toute cette, enfin, on va dire, c'est, il y a le joueur, mais il y a aussi tout ce qui se trouve à côté.
Ouais.
Pour ceux qui sont intéressés par Diego Armando Maradona, et notamment sur le côté espagnol et argentin, je mettrai en lien la vidéo que j'ai faite il y a 2 ans et demi sur sa blessure, et l'interview de Victor Hugo Morales que j'avais sorti pour la Coupe du Monde de foot, où justement il parle de sa relation avec Diego, parce que Morales a comment, donc, Victor Hugo Morales, c'est le commentateur du but, oui. Deux buts contre l'Angleterre.
Ouais.
Tu sais que je l'avais en sonnerie.
Valete Cosmico. Ah ouais, mais ça, Valete Cosmico, c'est incroyable. Il y a de très très bons documentaires sur Victor Hugo Morales, d'ailleurs, qui sont disponibles en espagnol. Et ils ont commencé le même jour, à Boca.
D'accord.
Donc, premier match de Boca, premier but de Maradona avec Boca, et premier commentaire de l'Uruguayen Victor Hugo Morales. Donc ils ont toujours été très liés, puis après ils ont travaillé ensemble dans la chaîne bolivarienne dont j'ai oublié le nom pour la Copa América. C'était des soldats, c'était un super programme sur la Copa América, c'était une demi-heure avec des super reportages. Enfin bon, ce qu'on aimerait beaucoup voir en France, SIC. Mais des trucs, non, il y avait des trucs qui étaient incroyables. Ils étaient allés faire un reportage sur le Nouvel An Mapuche. C'était au Chili, les mecs étaient partis faire le Nouvel An Mapuche. Ces trucs, voilà, et c'était tous les jours, t'avais une demi-heure, donc t'avais Diego. Bon, après, l'analyse de Diego Maradona sur le foot, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais
oui, bien sûr, mais ouais.
Mais t'as quand même, après tous les jours, t'avais un invité qui était ramené par Diego. Donc t'avais Camoranesi, t'avais des joueurs comme, t'avais des Kempes, t'avais des types comme ça, t'avais Passarella, t'avais que des légendes, quoi. Tous les jours, t'avais une légende. Puis en plus, en Amérique latine, vu qu'ils parlent tous espagnol à part le Brésil, du coup, t'avais quand même, ça facilitait les invitations et la compréhension. Mais c'était incroyable, c'était une super émission. J'avais une autre question, et évidemment, je l'ai perdue. Donc voilà. On va passer à la seconde partie. Inn, tu restes avec nous? Où est-ce que ta bouffe refroidie?
Ma bouffe refroidit, mais je peux encore rester.
Formidable. Ah, puisque tu aimes bien Philippe Sétienne, tu vas forcément aimer Pep Guardiola, qui est. Alors attention, oui. Attention les yeux. Pep Guardiola revient en Espagne, au Santiago Bernabéu, là où il a connu deux trois petits succès. qu'est-ce qui va se passer, Geoffrey, pour le City? Alors, déjà, pour City, vu qu'ils sont suspendus de, pour le moment, suspendus de compétition européenne, le City, qui n'est plus impérial en première ligue, largement dépassé par Liverpool, et le futur de Guardiola la saison prochaine.
Bah là, oui, là, c'est sûr que de toute façon, cette Ligue des Champions, là, enfin en tout cas, ce qui reste, les huitièmes, ça devient évidemment l'objectif prioritaire en plus des deux petites coupes nationales qui peuvent encore gagner, mais c'est surtout la Ligue des Champions. On pensait évidemment que que le City allait, on va dire, lutter pour le titre avec Liverpool, mais finalement, c'est râpé. Et aussi Guardiola, depuis son arrivée à City, doit prouver que il peut aussi, on va dire, remporter la Ligue des Champions dans un autre club. Donc il a pas réussi avec le Bayern. Là, il doit absolument au moins aller jusqu'en demi voire finale avec City, même dans une année très compliquée en championnat. C'est très particulier parce que ça va être évidemment une ambiance de dingue au Bernabéu et surtout les retrouvailles, on va dire, indirectes entre la Catalogne, le Catalan numéro 1, et puis on va dire l'Espagne, on va dire la belle Espagne. Donc c'est ça va être compliqué. Alors en conférence de presse, évidemment, en première ligue ce week-end, il a encore beaucoup été question, évidemment, du fair play financier, de la suspension. Pour l'instant, c'est 2 ans avec une amende de 30 millions. Ça va être compliqué. Je sais pas du tout ce qui peut se passer. Ça me paraît déjà compliqué que le City soit encore suspendu 2 ans. Ça me paraît surtout énorme. Bon, de toute façon, Guardiola, il avait dit que fallait pas que l'équipe se focalise sur ça, qu'elle se concentre sur cette édition de la Ligue des Champions. Moi, je pense que évidemment City peut faire évidemment un résultat, d'autant que en plus le Real va être privé de Hazard, même si Hazard évidemment revenait et évidemment était pas à 100%. Mais City, en tout cas, il va en conquérant et il va vraiment pour gagner et non pas faire un résultat un petit peu qui les arrange. Que ce soit un match nul ou une défaite avec un but d'écart.
Est-ce que Guardiola exaspère outre manche? Parce que parce que j'ai vu il y a pas longtemps, il a commencé à remettre en question les replays de la FA Cup.
Oui.
Et alors je veux dire avant ça que j'ai rien contre la Catalogne, mais il a un peu ce côté très revendicatif actuel de la Catalogne en disant genre lui c'est mieux que les autres, tu vois, il arrive dans un pays qui n'est pas le sien et il voudrait que on se plie à son désir à lui, tu vois. Il y a un petit côté capricieux dans le truc, tu fais ouais, mais bon, les replays ça existe depuis le début de la Cup, quoi, donc bon.
Oui non mais bien sûr, et puis en plus même si ça a été aménagé récemment durant les 5 dernières années, c'est-à-dire qu'il y a plus que des replays pour le 3e et le 4e tour, à partir des 8e, il y en a plus, mais on va dire les replays, ça a toujours fait. Alors après, c'est un peu bizarre de ça, mais on va dire le charme, en tout cas la tradition de cette FA Cup, la compétition la plus vieille au monde, et surtout évidemment dans un pays qui est quand même très 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 conservatrice et traditionnaliste et qui adore évidemment tous ses côtés historiques, donc ça a beaucoup heurté. Mais il n'est pas le seul, hein. Il y a eu aussi Liverpool Club qui l'a dit justement pendant, on va dire, les matchs de Liverpool où ça s'enchaînait, et surtout quand Liverpool avait été obligé de mettre ses U23 en demi de League Cup face à Aston Villa quand ils s'étaient envolés pour disputer la Coupe du Monde des clubs. Mais c'est surtout, un langage de coach étranger, ça. Et puis comme en plus, il pèse beaucoup plus que les autres, avec Klopp en plus, forcément ça attire beaucoup plus l'œil, mais ça exaspère un peu de toujours remettre en question tout ce qui se passe en Angleterre depuis des années, et surtout aussi ça, on est revenu là, il y a le Guardian qui a fait un papier avant-hier encore pour ce côté un petit peu je respecte pas vraiment les règles du côté de Guardiola, quand il y avait eu évidemment ce soulèvement populaire tout ça en Catalogne en 2017 pour avec le référendum sur l'indépendance, évidemment lui il avait accroché
le ruban jaune. Il y a un très très bon article dans Furia Liga là-dessus, je sais plus qui l'a écrit, mais c'est un très bon article.
Donc du coup, bah forcément, alors bon, qu'il aime sa Catalan, qu'il aime sa Catalogne, évidemment, c'est un souci, mais surtout qu'en plus, comme ils savent évidemment son côté très, on va dire, patriotique, en tout cas, même si la Catalogne n'est pas une nation, en tout cas très patriotique sur la Catalogne, on lui avait bien dit, en plus, au début, la Première Ligue, bon, il se passe quand même des choses, évidemment, en Catalogne, on vous sent très proche, évidemment, de votre région, mais n'exprimez pas, en tout cas, on va dire, tout ce que vous pouvez, ça peut évidemment se retourner contre vous, évidemment, en Première Ligue, qui est très, évidemment, sujette à ça. Et puis, bah non, bah, en fait, finalement, s'il décide de porter le ruban jaune, il le porte, même s'il y a des amendes bah, qui sont contre lui. Donc, bon, c'est en gros, on me punit, mais je fais quand même ce que je veux. Donc, ça heurte aussi beaucoup, ça.
Diego Maradona a failli jouer pour l'Olympique de Marseille. Zinedine Zidane a failli jouer pour l'Olympique de Marseille. Et Inde doit partir.
Voilà.
J'ai pas trouvé meilleur lancement.
Non, c'est parfait.
Merci beaucoup. Et puis, bon match demain. Profite bien.
Bon match à vous aussi.
Du grand San Paolo. Puis on pourra lire ton reportage dans la revue des Cahiers du Foot tout bientôt.
Ça marche. Bonne soirée.
Ciao, à dans le temps.
Au revoir.
Reprenons donc sur Manchester City et Pep Guardiola. Qu'est-ce qui a changé dans la routine de City cette saison, outre le fait que Liverpool est sur sa lancée de la Ligue des Champions précédente et que ça s'est développé à la Première Ligue au point d'être complètement intouchable, et qui fait que finalement, City n'est plus l'ogre que l'on pouvait apercevoir les années précédentes.
Bah c'est assez paradoxal parce que en gagnant le titre l'année dernière, en plus avec encore 98 points et même 100 points encore la saison d'avant, donc 198 points sur les deux dernières saisons, bah c'était tout simplement incroyable. Et on pouvait se dire de toute façon, évidemment, la soif de vaincre ne va jamais s'arrêter. Et Guardiola a créé une machine de guerre après une année un petit peu compliquée d'adaptation en 2016-2017. Et finalement, bah, on s'était dit, bon, bah, ça va être encore une année où le titre va se jouer entre Liverpool et City et il y aura rien à dire. Et, assez vite, assez rapidement, ça a pas du tout été ce scénario. City déjà a été confronté, ça lui a fait énormément de mal déjà à la blessure d'Emeric Laporte, qui était évidemment le défenseur numéro un de Guardiola et un petit peu son option pour bien relancer derrière. Donc ça fait énormément de mal, sachant qui n'avait pas recruté de défenseur pour remplacer le départ de Vincent Kompany. C'était l'un des deux secteurs en tout cas à voir dans le mercato d'été. C'était un numéro 6, ils ont pris Rodri et il y avait un défenseur central. Finalement, bah le défenseur central n'est jamais arrivé, ils étaient sur Maguire. Finalement, ça s'est pas fait. Fernandinho a dû reculer en défense centrale Guardiola ne faisait vraiment pas trop confiance à un joueur que évidemment que tu connais bien, à Nicolas Otamendi. Donc,
j'allais t'en parler du Général qui est parti pour 45 millions. Ça serait marrant si Valence n'avait pas pris Abdennour à la place. mais encore que quand Abdennour est signé, c'est un très bon choix a priori. Mais c'est vrai que je sais pas si Otamendi a pu retrouver ce qu'il a eu pendant une saison à Valence en fait, et au point que Lim voulait absolument le faire revenir à City en vendant Mukhtar Diakabi, le faire revenir à Valence, je veux dire. Et mais finalement, il a pris un autre ancien de City qui revient lui aussi à Valence, c'est Eliakim Mangala.
Ouais, c'est ça, c'est un peu bizarre, mais pourtant pour revenir sur Otamendi, c'était quand même très très compliqué. C'était un défenseur que déjà que j'aimais beaucoup à Porto, mais que j'ai adoré à Valence. Je le trouvais vraiment très fort et limite personne ne pouvait le passer. Il a continué à la Copa América 2015. J'ai vraiment trouvé énorme. Et tu vois, j'étais vraiment à fond sur lui et je voulais vraiment que Manchester United le prenne parce que Manchester United était aussi sur lui et en recherche d'un défenseur central. Et quand City l'a pris, j'étais complètement dégoûté parce que je me suis dit, oh là là, ça va être, il va régner pendant au moins 5-6 ans au haut niveau à City. Il a fait une bonne première saison, une deuxième un peu moins bonne, et puis en fait depuis 2017, c'est très très compliqué. En fait, il peut être concentré pendant une heure et puis après te faire enfin, je sais pas, soit un geste absolument incroyable, mais évidemment dans le mauvais sens du terme, ou que son cerveau en fait se déconnecte. Je sais pas pourquoi. Donc forcément, bah en plus, bah Guardiola, pas non plus très fan de son profil, même si évidemment il lui fait confiance et puis il a quand même pas mal d'apparitions à chaque fois par saison. Mais c'est sûr que la blessure de Laporte a fait très très mal à City. Puis après, hormis ça, il y a eu pas mal de changements dans le jeu de City, beaucoup moins flamboyant. Il manquait certains trucs, c'est-à-dire tu vois des matchs face à des petites équipes. Alors il y a eu Wolverhampton, donc plus vraiment une petite équipe en Angleterre, mais face à Crystal Palace aussi, où on voit City, le jeu de City un petit peu se déliter et bah avoir plus de folie. Donc c'est assez compliqué. Ils doivent aussi faire face à évidemment à des cadres qui deviennent vieux aussi. Je pense surtout à David Silva, où c'est quand même compliqué pour lui, même si c'est sa dernière saison, c'est compliqué pour lui un petit peu à exister. C'est un mercato mal géré, des malchances évidemment sur des blessures évidemment de joueurs, on va dire cadre évidemment, et des gars un petit peu sûrs de Guardiola, et puis surtout ce brin de folie qui manque, et tout ça pris dans l'engrenage, ça a fait la saison que City connaît actuellement, quoi.
Est-ce qu'en Ligue des Champions il est au-dessus de Manuel Pellegrini?
Actuellement non, parce que par rapport à ce que Manuel Pellegrini a fait, Manuel Pellegrini a quand même disputé une demi-finale des Champions en 2016. Ce qu'il fait avec City, c'est comme un petit peu le syndrome du Bayern. Bon, même si là avec le Bayern, il a été plus loin, il a été jusqu'en demi. Il y a un City en Ligue des Champions et un City en championnat. Encore en Ligue des Champions dans la phase de groupe, ça passe sans problème. Mais il y a toujours ce blocage après, à partir des huitièmes d'écart. Et pour l'instant, non, on ne peut pas dire qu'il a fait beaucoup mieux. Surtout qu'il dispose, évidemment, moi je trouve, d'un effectif encore meilleur, où là, vraiment, tous les postes doublés, il n'y a aucune perte de valeur et de qualité sur le terrain. C'est-à-dire que si tu remplaces un Mahrez par un Bernardo Silva, les adversaires, ils peuvent dire, oh, putain, on n'en a pas fini, quoi. Mais donc, c'est un petit peu ça. De toute façon, ça a toujours été le blocage de Guardiola à City. Ça a toujours été cette Ligue des Champions. Pas la phase de groupe, évidemment, mais à partir des huitièmes d'écart, quand vraiment tout se joue sur des détails, tu vois que finalement, c'est assez juste, même s'il a un effectif incroyable.
Alors justement, ce match-là, outre le retour de Guardiola en Espagne, c'est aussi un duel entre quasiment deux entraîneurs antagonistes, à savoir Zinedine Zidane, qui est plus un jeu direct, qui a besoin d'un milieu de terrain très fort. Casemiro, Modric, Kroos, Fede Valverde, qui sont vraiment qui constituent vraiment une ossature très très costaud, physique. Après ça joue bien en ballon aussi, mais celui qui est le plus en arrière, c'est techniquement ça serait Valverde, mais encore il est très jeune. Même Casemiro a mis des buts décisifs, bon Modric on parle même pas, et Kroos c'est pareil. Le Real Madrid n'est pas une grande équipe de foot, mais c'est certainement la plus grande équipe mentale. C'est-à-dire que c'est historique, hein. Si on parle aux très grands supporters du Real Madrid, qui ont une cinquantaine d'années, ils vont te dire la meilleure équipe qu'on ait vue du Real Madrid, c'est la Quinta del Buitre. C'est-à-dire c'est les années 80-90, quoi. Ouais. Tu vois. Et depuis, même les Galactiques, ils trouvent à redire de l'équipe des Galactiques, l'équipe qui gagne en 2002. C'est le Real Madrid, une équipe très mentale, et ils l'ont prouvé en gagnant trois fois la Ligue des Champions, en remontant des scores, notamment contre Wolfsburg, et ce match-là change toute la lignée du mandat de Zidane sur les équipes-là. C'est une équipe de coupe.
Bien sûr.
Vraiment une équipe de très grand rendez-vous. Et là, est-ce qu'ils ont, même s'ils font le premier match à domicile au Santiago Bernabéu, est-ce qu'ils n'ont pas déjà l'avantage par rapport à City, qui en championnat est très loin, qui n'a plus rien à jouer et qui bute un peu quand ça devient important en Champions?
Complètement, parce que Manchester City, on va dire que c'est leur, leur dernière chance d'accrocher un grand trophée. Il y a la première ligue, c'est complètement râpé. On va pas évidemment compter sur les deux coupes nationales. C'est surtout la Champions League. Et la Champions League, depuis décembre, c'est devenu l'objectif numéro un de City. Donc, il y a forcément une pression supplémentaire, plus ce problème, évidemment, mental à partir des huitièmes et des quarts. Et quand on parle, évidemment, du Real Madrid, déjà, évidemment, c'est, celle qui a déjà gagné trois trophées de suite. Il n'y a pas si longtemps, donc déjà il part déjà avec cet avantage-là de super puissance en Ligue des Champions et de même par rapport à leur histoire avec la Ligue des Champions. Et puis c'est vrai que Zidane a fait énormément déjà du bien dans les têtes, au-delà après de savoir que le Real joue bien aussi au foot. Évidemment, c'est une équipe qui a une énorme individualité, mais c'est surtout ce côté mental, je pense, qui va faire la différence. Et quand on parle d'avantages, de favoris, etc. Pour moi, le favori, même si le Real a été deuxième de groupe, ça reste le Real Madrid, parce que évidemment, ce vécu en Ligue des Champions, le fait qu'ils ont remporté trois fois, évidemment, il y a deux ans déjà, enfin, je veux dire, il y a plus que ça, mais en tout cas, le dernier, il y a deux ans, et puis le fait de jouer au Bernabéu, le premier match, le fait qu'il y aura aussi une grande tension, évidemment, pour City, parce qu'il va falloir faire absolument un résultat, et voilà, c'est ce côté-là, je pense, qui peut vraiment porter préjudiciable à City, et peut-être à l'avenir de Guardiola, parce que si Guardiola refait encore une saison, on va dire, pas cataclysmique, mais je veux dire, perd soit en huitième, soit en quart, alors que l'objectif, évidemment, pour City, avec l'armada qu'ils ont, c'est évidemment de faire partie des grandissimes favoris, en tout cas, de la Ligue des Champions, même s'ils n'ont pas de palmarès dans cette compétition, ça va porter évidemment un grand coup encore au projet de Guardiola à City. Et en plus, après, avec la suspension qui, quand on est au Citizen, on attend le résultat la décision du TAS. Mais en tout cas, une élimination de City au stade des huitièmes, ça fera vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de grand monde, en tout cas du côté de City, et une fin de saison complètement noire, en tout cas. Mais en tout cas, avantage sur ce côté mental la façon de gérer ces rendez-vous européens, en plus des rendez-vous couperés, évidemment, à l'avantage du Real Madrid, ça c'est indéniable.
Et au-delà du cas strict de Guardiola, est-ce que tu penses qu'une interdiction sur deux ans de toute compétition européenne, c'est confirmé par le TAS, malgré tous les investissements, notamment en haute technologie, qui ont été effectués par les propriétaires, je crois que travaillent beaucoup sur l'intelligence artificielle, c'est pas ça, ouais, ils sont déjà dans le football des deux prochaines décennies, quoi. Est-ce que tu penses que, en étant suspendu deux ans, c'est-à-dire en étant du coup moins attractif pour les joueurs, qu'ils soient anglais ou étrangers, est-ce que ça peut conduire les investisseurs à fermer le robinet ou en partie ne plus l'alimenter comme c'était prévu, sachant quand même qu'ils sont quand même pris pour fraude.
Oui, bien sûr, c'est ça. C'est pour
donc c'est quand même c'est un peu ça peut ressembler un petit peu évidemment c'est pas pareil.
Réflexion pour un départ, ouais.
Ouais, voilà. Et puis c'est pas exactement la même chose, mais le PSG avec les Qataris, ils disent bon, on passe pas à la Ligue des Champions, on n'y arrive pas. On a le président qui a des problèmes. Même si c'est à côté du PSG, que ça n'a pas de rapport avec le PSG, mais qui est quand même encore des problèmes, il y a le plus fair play financier, il y a ça. Est-ce que tu dis bon, on va se retirer parce que c'est trop de galère, quoi. Et là, en plus, dans cette histoire-là de City, il y a quand même une histoire de fraude, quoi. Donc et en plus, quand on sait que les pays du Golfe se tirent la bourre pour savoir qui a la meilleure équipe de foot, ça fait un peu désordre, quoi. C'est un peu la honte, quoi.
Ah bah ça a complètement fait des ans. En plus le timing, personne s'y attendait évidemment à cette déclaration. Moi, même s'il y avait quand même des signes avant-coureurs, il y avait City qui avait été pris par la patrouille aussi avec le FPF en 2014. Ils avaient dû payer, je crois, une amende. Enfin, ils auraient dû payer une amende de 60 millions. Ça a été ramené finalement à 20 et ça faisait partie aussi des gros sujets des Football Leagues aussi. Mais c'est sûr que oui, si jamais la décision est en tout cas confirmée de deux ans, ce qui est absolument énorme pour un club comme ça. C'est comme si, alors je compare pas évidemment les institutions et les les institutions, de ce que ces équipes ont fait pour le football européen, etc. Mais c'est comme si, ouais, le Real Madrid et le Barça étaient privés actuellement de deux saisons sans Ligue des Champions. Ça peut remettre en cause, évidemment. Alors le projet, je sais pas, mais en tout cas la stratégie, en tout cas à court terme, parce que forcément, bah des garçons comme Agüero, déjà, même sans ça, on sait pas vraiment s'il va rester jusqu'à la fin il va rester au-delà de la saison en cours, puisqu'il avait dit qu'il voudrait retourner en Argentine, où il pouvait encore apporter, évidemment, sportivement, et pas retourner en Argentine quand il avait 35 ou 36 ans. Mais ça peut faire beaucoup de mal, sachant qu'en plus, ils peuvent perdre Agüero, donc j'en ai parlé. Ils vont perdre aussi David Silva, qui était, on va dire, évidemment, Agüero, Silva, bon, Yaya Touré avant, mais qui était un petit peu la colonne vertébrale de tout ce qu'a pu être City depuis 2010-2011, et tous les trophées finalement de City remportés après. Donc déjà, il y a une fin de cycle par rapport à ça, et après, il y a cette suspension où oui, il y aura peut-être d'autres joueurs qui voudront partir, pourquoi pas Kevin De Bruyne. Après, d'autres qui peuvent après, et c'est sûr que City ne va pas forcément se voir évidemment dépeuplé, hein. Je pense que peut-être des Mahrez ou des Bernardo Silva vont pouvoir rester ou vont peut-être aussi blinder les contrats. Mais en tout cas, ça peut porter un gros coup déjà à la suite du projet des Emiratis. En tout cas, à court terme, ça c'est juste inévitable. Après avoir si c'est 2 ans, ça me paraît quand même compliqué, et puis ça me paraît gros aussi 2 ans. Mais même 1 an, hein, ça peut aussi faire mal. Hein. Donc à voir. Mais c'est en tout cas c'est très très négatif même pour l'image de City, et même si les 2 ans sont annulés, hein, c'est quand même très négatif pour l'image du club.
Est-ce que finalement le fait d'avoir alors attention, soyons clairs, Manchester City est un club avec une histoire. C'est pas mais l'histoire récente, c'est l'injection d'argent. Est-ce que c'est pas ça justement? Ils sont revenus sur le devant de la scène. C'est un peu qui vit par le glaive périt par le glaive en fait. C'est que est-ce qu'il y aura un côté où tous tes joueurs qui ne sont pas anglais, c'est-à-dire je sais même de tête là j'en ai pas. Est-ce qu'ils vont si on pas tous se tirer, parce que tu viens dans un club comme ça pour très bien gagner ta vie, mais aussi pour un petit peu gagner la première et la Coupe d'Europe quoi. Donc est-ce que t'as pas un attachement immense au club quoi, puis t'as un stade où il y a aussi beaucoup de gens qui de touristes qui viennent voir City parce que c'est City, parce qu'ils ont joué aux jeux vidéo, parce que voilà, pour plein de raisons, parce que c'est Guardiola, parce que il y a plein de bonnes raisons comme de mauvaises raisons au final. Mais est-ce que finalement ça, le fait qu'il y ait pas le seul attachement que t'es, pourquoi t'as signé là-bas, c'est uniquement par rapport à une histoire récente faite sur l'argent. Par exemple, par exemple Manchester United, je pense qu'ils auraient moins ce problème-là. Par exemple, ou même Arsenal. Ils auraient peut-être moins ce problème-là que Manchester City, où finalement tous les mecs ont signé parce que c'était the place to be à un moment, avec l'argent qu'ils investissaient, quoi.
C'est ça, et puis c'est le projet qu'on leur avait vendu aussi. Regarde, quand Yaya Touré, David Silva et Agüero arrivent à City, City, ils sont pas en Ligue des Champions, donc ils arrivaient évidemment à attirer des grosses pointures par le salaire, par leur projet aussi qu'on leur a proposé. Après, oui, City, c'est sûr que City, c'est un club mythique en Angleterre qui a une histoire absolument formidable, qui même, ça reste aussi un des pions du football anglais. Et c'est vrai que City, avant l'arrivée des Emiratis en 2008, c'était une équipe qui jouait le maintien, qui jouait entre la 10e et la 18e place. Ils ont aussi au début des années 2000, ils étaient aussi en championship en D2. Donc c'était une équipe à chaque fois qui jouait le maintien. Donc à partir du moment où en 2008 finalement arrivée des Emiratis et puis la première arrivée de Robinho, c'est sûr que là tu changes complètement de stratégie, sachant qu'en plus
il y a Robinho. Tiens, encore un avec le Real Madrid. Robinho et sa conférence de presse mythique.
C'est incroyable.
Il faut que tu la racontes pour ceux qui ne connaissent pas cette anecdote.
Voilà, oui, parce qu'il pensait qu'il voulait partir évidemment du Real, et il pensait qu'il avait signé dans un grand club anglais. Il pensait qu'il avait signé dans le club anglais, on va dire tendance évidemment de milieu des années 2000, donc à partir de 2005-2006, c'était Chelsea. Et évidemment, il était super content. Il s'est dit, oh, bah tiens, il y a un maillot bleu, etc. Il s'était pas du tout renseigné. Et puis finalement, à la conférence de presse, il a dit qu'il était très heureux, très heureux d'avoir signé dans le club de Chelsea, alors que finalement tout le monde a regardé, tout le monde avait rien dit évidemment, pour pas évidemment perturber ce qu'il pouvait dire en conférence de presse. Et de là, enfin, je veux dire, ça en dit aussi beaucoup long de beaucoup sur ce, on va dire, sur ce nouveau projet où finalement, bah, ce club-là, on va dire, était inconnu des étrangers et que, bah, avec des coups de millions, tu veux faire venir des grands joueurs et que même en faisant venir des grands joueurs, bah, en fait, finalement, bah, ton club, il reste pas connu en tout cas pour l'instant. Donc, c'était assez, enfin, je veux dire, c'est quand même assez symptomatique et un petit peu révélateur de ce nouveau City finalement.
Oui, d'ailleurs, il a laissé une moins grande empreinte que Benjani Mwarumwari. Ah, bah, les amateurs de Ligue 1 et de la JOCR se rappellent très bien du buteur zimbabwéen.
C'est ça, et c'est fou. Alors que finalement, City à la base, c'était aussi un grand club, on va dire, qui formait des jeunes. Où les jeunes aussi sortaient, on va dire, de ce centre de formation qui était en équipe première. Et en fait, finalement, bah, ils ont tout un petit peu bazardé ça, parce que maintenant, bah, fallait évidemment des résultats tout de suite, bah, parce qu'on avait tout de suite envie d'être en haut de l'affiche et de gagner des titres, et pas le temps finalement de faire développer des jeunes, ce que finalement Sir Alex Ferguson a toujours bien fait à United et un peu à toutes les époques qu'il a pu entraîner, que ça soit à la fin des années 80, les 90 ou les années 2000. Et c'est un petit peu dommage, parce que en plus les Anglais, ils adorent évidemment. Ils attachent beaucoup aussi d'importance à la formation, aux jeunes qui est sorti de formation en plus du club. Et ce qui est dommage, c'est que bah, le Phil Foden, qui est sorti du centre de formation de City et qui est un très bon jeune, que Pep Guardiola dit oui, bah, il est meilleur que Messi, etc. Il l'avait dit l'année dernière, mais finalement, bah, il a très 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 peu de temps de jeu. Donc finalement, c'est très compliqué dans des clubs comme ça. C'est tout de suite, mais on le voit aussi avec le Paris Saint-Germain. C'était pareil, on le voyait avec Chelsea. Avant que Lampard arrive finalement et cette interdiction de recrutement, bah, est un petit peu, on va dire, bénéfique, où il a pu faire monter des jeunes de l'académie. Mais à City, c'est très compliqué. C'est basé que sur l'achat de joueurs évidemment confirmés et à 20, 30, 40, 50 plus. C'est fou. C'est basé sur cette stratégie-là. Mais évidemment, quand on a une interdiction qui vous tombe sur le nez, bah, ça peut tomber à l'eau finalement.
Alors, je sais que tu es incollable. On a cité Robinho qui a porté les deux maillots. Il faut que tu me cites deux autres joueurs qui ont porté les deux maillots.
Alors, depuis que United est passé en...
Là, j'en ai deux en tête. Ils ont gagné la Coupe d'Europe avec le Real Madrid.
Ah bah j'ai aussi... sinon, j'avais aussi Peter Schmeichel. J'avais aussi Carlos Tevez.
Quand je joue au Real et à... Et à City.
Qui ont joué au Real et à City, pardon, excuse-moi. C'est assez récent.
Ouais, ils ont gagné la Coupe d'Europe ensemble en 2000, si je me trompe pas, contre Valence.
En 2000. Ah bah si, bah il y a Nicolas Anelka, forcément.
Absolument. Et on en a parlé la semaine dernière.
Je pense qu'il y a peut-être Steve McManaman.
Exactement. Je suis allé vérifier parce que j'étais convaincu que McManaman allait jouer pour aller finir sa carrière à City. Effectivement, il a fait deux ans à City après le Real Madrid. Mais c'est vrai que bon, il a beaucoup moins marqué qu'à Liverpool et au.
Ah bah c'est ça. Oui, c'était c'était finir sa carrière. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont fait la bascule aussi, commencer à Liverpool ou commencer à City et après signer dans l'autre club. Mais ouais, c'était assez sont les deux joueurs qui ont joué pour les deux. Bah ouais, en même temps, jouer au Real Madrid, je veux dire, il y a pas aussi beaucoup d'Anglais qui ont joué là-bas, parce que même s'il y en a quelques-uns, ça doit être le seul club peut-être espagnol où il y a eu plus d'Anglais passés peut-être dans son histoire, je crois, il me semble.
C'est fort possible.
Ouais, il y avait même plus.
Ah, peut-être peut-être l'Athletic, mais il faudrait remonter très très haut.
Ouais.
Remonter dans les années au début du siècle, 20e siècle.
D'ailleurs, je sais pas si tu savais, le premier buteur officiel de l'histoire du Real Madrid, c'était un Anglais. Arthur Johnson, c'était lors d'un classico, je crois, en 1902 ou 1903,
j'ai dit. Ouais, je sais plus où je l'ai vu, mais oui, je l'ai vu il y a pas très longtemps d'ailleurs. Pour un travail où j'ai travaillé sur le foot aux États-Unis et je crois que j'ai vu le nom passer. Ouais. Après, je te l'aurais pas ressorti, hein. J'ai pas.
Ouais, mais
pas... Je vais pas me la raconter, mais. Dis, ouais. mais, euh, Alors, je tiens à dire aux auditeurs qui sont réguliers du podcast, Didier Roustan parle dans tous ses podcasts de Diego Maradona et d'Eric Cantona. Moi, je parle tout le temps de Steve McManaman. Je crois que dans chaque podcast étranger, il y a forcément Steve McManaman va intervenir. Bon, là, en plus, il y a eu Maradona. On a fait fromage et dessert aujourd'hui. Ouais. Mais Steve McManaman.
Ils sont marqués quoi, quand on était gosse et puis ben voilà, c'était des énormes joueurs, tu vois. J'ai beau être un supporter avec Red United, voilà, il a été évidemment, c'est un gamin de Liverpool, il a été énorme là-bas et puis je me suis dit oh, un Anglais qui va en tout cas qui s'expatrie et qui va en Espagne, choc des cultures, ça va être un petit peu compliqué. Puis en fait pas du tout, il nous a sorti masterclass sur masterclass avec évidemment ce but en finale de la Ligue des Champions en décembre.
Ouais,
c'est ça. Et puis maintenant, c'est un petit peu, en plus, c'est un petit peu rentré dans le langage courant du foot, faire une McManaman, hein.
Donc, ouais, c'est vrai.
C'est incroyable.
C'est pas comme la Major, mais c'est vrai qu'après, peut-être qu'on est un peu vieux. On disait ça, hein, quand on était au collège et tout ça. T'as fait une McManaman. Et si t'arrives à faire une McManaman, t'avais quand même la classe, parce qu'il faut être sacrément coordonné.
C'est ça, faire une Redondo aussi, son geste à Old Trafford.
Ouais, mais ça, la faire la Redondo, c'est quand même beaucoup plus dur.
Ah bah c'est
bon. La maca est relativement, c'est à la portée de, enfin, c'est à la portée de quelqu'un qui est coordonné. Ouais, alors que la Redondo.
Ah ouais, la Redondo. Je crois que depuis qu'il l'a fait, en plus, je l'ai vu en direct évidemment le truc. Je crois que je n'ai jamais vu, alors peut-être dans d'autres matchs de foot, mais j'ai jamais revu en direct quand je regardais un match de foot quelqu'un. En tout cas, même la tenter, même rater, mais même la tenter, c'est un peu dur.
C'est Denis Irwin qui se fait croquer.
Il me semble que c'est Denis Irwin. Ouais, c'est ça.
Ouais, je sais plus si c'était Berg ou Irwin, mais.
Il me semble que c'est Irwin. Ouais, il me semble que c'est Irwin. Ouais, Lindbergh, je crois qu'il est en. Bah après, il se faisait prendre la soupe à Raoul Lindbergh. Alors.
Mais je crois que cette saison-là où Florentino Pérez s'attrape avec Ronaldo Fenomeno, et on terminera ce podcast sur cette magnifique anecdote. Florentino Pérez lui fait. Et toi, je te paye. Donc il s'énerve sur Ronaldo. Il fait, toi, je te paye pour courir. Et il fait, non, vous me payez pour marquer des buts. Pour courir, c'est plus cher. Voilà, j'adore cette anecdote. Je la trouve très très bonne. Parce que déjà, j'adore Ronaldo Fenomeno pour commencer. Puis non, franchement, parce que évidemment, l'autre, il veut le regarder, il veut faire, mais t'es gros, quoi. Non, mais c'est plus cher, quoi. C'est plus cher, obligé.
Ah oui, bref. Finalement, il a réussi, puisque un des matchs, on va dire, évidemment de sa carrière au Real Madrid, c'était évidemment
ce match à Old Trafford.
Et d'ailleurs, bon bah le Real donc avait gagné sur les deux confrontations, je crois qu'il y avait trois au Bernabéu, ils avaient perdu 4-3 à Old Trafford. Ce match évidemment absolument, mais c'était je crois qu'on pouvait pas, des deux côtés du terrain, c'était des stars partout, et donc il avait mis fin, on va dire, à la carrière de Barthez à Manchester United, où après ce match, Sir Alex en avait marre et puis il avait commencé après à mettre Timo Ward à partir de la saison 2003-2004 et c'est un petit peu terminé pour Barthez à United. Mais oui, finalement, Ronaldo, alors c'était pas en France-Brésil, mais Ronaldo a eu sa revanche sur Barthez.
Et c'est pas des années coups francs de Bex avec United?
C'est ça, si, il partait quelques mois après puisque c'était peu de temps... C'était peu de temps après, tu sais, la fameuse affaire de la chaussure.
Oui, la chaussure.
Lors du match de FA Cup contre Arsenal. Donc, c'était quelques mois après, Bex signé au Real Madrid.
Pour terminer, un petit pronostic pour ce match aller Real Madrid-Manchester City.
Eh ben, même si de toute façon il n'était pas à 100%, mais même sans hasard, je vois une victoire du Real au Bernabéu. Je vois aussi, beaucoup de buts. Je vais dire un 3-2 pour le Real.
3-2. Est-ce que tu crois que Karim Benzema va prendre ses responsabilités, garçon? c'est une private joke entre Geoffrey et moi, mais je suis obligé de la faire.
Il serait temps quand même parce que ça fait 10 ans qu'il les a pas pris. Hein.
C'est ça, ouais. C'est dire que là, je pense que c'est le bonjour pour Benzema pour rappeler un petit peu, parce que bon, ça c'est aussi la folie en Espagne. Tu marques pas pendant 2-3 matchs. Bon, Messi là, il a calmé tout le monde le week-end dernier en mettant 4 buts. Mais Benzema, les grands joueurs dans les grands matchs, donc Benzema.
Oui, et puis en plus Benzema, en Ligue des Champions. Donc non, je vois un but, une énorme participation. Allez, je me mouille aussi sur Benzema. Un but, une passe D, parce qu'il y a quand même Moi, j'aime beaucoup quand Benzema marque, mais j'aime peut-être encore plus quand il fait le jeu et quand il fait des passes D. Donc, allez, un but, une passe D pour Benzema. Et une victoire du Real 3-2.
Je te remercie, Geoffrey, d'avoir passé cette heure avec moi.
Ah bah, il y a pas
et avec Kine aussi qui est parti. J'étais en train de dîner. là, alors qu'il est, elle doit être. Elle a dû prendre 3 ou 4 kilos déjà là. Parce que bon, son Instagram est dantesque, je vous jure. C'est la fin de ce Foria Champions podcast. Il fera son retour le 10 mars prochain pour les premiers huitièmes de finale retour qui concerneront Valencia et l'Atlético. Allez, hasta luego. Ciao. Adiós.